VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. On commence par les États-Unis. Le Sénat américain se réunit ce midi pour un nouveau vote sur le shutdown alors que le pays commence à subir les effets de la fermeture partielle de l'administration fédérale. Les tractations entre républicains et démocrates sont demeurées infructueuses ce week-end. Initialement prévu donc dans la nuit, le vote du Sénat qui pourrait permettre de mettre fin au shutdown a été reporté à ce midi, soit 17h GMT. Cette paralysie budgétaire liée à un désaccord sur la question sensible de l'immigration devrait se traduire par la mise au chômage technique de centaines de milliers d'employés fédéraux. La légende du football africain George Weah prête serment aujourd'hui comme nouveau président du Libéria après avoir promis d'améliorer l'emploi et l'éducation, soulevant l'espoir d'améliorer la vie dans ce pays ouest-africain, 15 ans après d'atroces guerres civiles. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, qui quitte le pouvoir après deux mandats consécutifs de 6 ans chacun. L'investiture de ce lundi va marquer la première transition démocratique au Libéria depuis 1944, lors d'une cérémonie prévue au stade Samuel Kanyondo, près de la capitale Monrovia. La ministre malgache de la Justice a catégoriquement nié avoir accepté un pot de vin de la part d'un Français pour faciliter son évasion d'une prison de la Grande Île, condamnée à Madagascar à 3 ans de prison, notamment pour usurpation de fonctions et extorsion de fonds. Hossein Arfa a profité d'une visite à l'hôpital à Antananarivo pour s'évader le 28 décembre lors d'une cavale rocambolesque. Il a ensuite quitté Madagascar en pirogue jusqu'à Mayotte avant de regagner la France. Les autorités centrafricaines ont déploré le non-lieu du parquet de Paris dans l'affaire des présumés abus sexuels commis en 2013 et 2014 sur des enfants mineurs en Centrafrique. Des soldats français de l'opération Sangaris sont pointés du doigt. Mamadou Oumfa.
Les juges ont rendu un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune inculpation faute de charges suffisantes. Dans ses réquisitions, le parquet soulignait qu'au terme de l'enquête, il ne peut être affirmé qu'aucun abus sexuel n'a été commis. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a estimé que le parquet de Paris devrait aller un peu plus loin. Ange-Maxime Kazaki a salué le pourvoi en cassation introduit par la société civile et les avocats. Ces accusations de viol d'enfants en Centrafrique visant des militaires français durent déjà depuis 3 ans. La justice française a écarté la perspective d'un procès au terme d'une enquête délicate qui laisse des questions en suspens et des parties civiles déçues. Révélées en 2015, ces accusations d'abus sexuels avaient terni la réputation de l'armée française déployée dans le pays sous l'égide de l'ONU pour restaurer la sécurité après des mois de violence. Depuis, d'autres scandales touchant des contingents d'autres pays ont éclaté et les Nations Unies ont été critiquées pour leur manque de réactivité.
Au Tchad, l'activiste Mayadine Mahmad Babouri, arrêté le 30 septembre 2016 à N'Djamena, est toujours en détention. Il est accusé d'avoir critiqué sur les réseaux sociaux la mauvaise gouvernance du régime du président Idriss Déby Itno, à qui il reproche d'avoir plongé le pays dans la situation de crise actuelle. Un groupe de militants des droits de l'homme s'est constitué en comité pour entreprendre des actions légales conformément au nouveau code de procédure pénale pour demander sa libération. Les précisions d'André Kodmajinga, notre correspondant à N'Djamena.
Inculpé pour atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'intégrité territoriale et d'intelligence avec un mouvement insurrectionnel, Mayadine Mahmad Babouri a fait plus de 15 mois en prison sans être auditionné sur le fond. Le comité qui vient d'être mis en place envisage d'utiliser des voies légales pour exiger sa libération. Manga Jean Bosco en est le porte-parole.
Nous avons actuellement une nouvelle loi qui dit qu'un détenu qui n'est pas jugé au-delà de 4 mois est en situation de détention abusive et le juge peut décider qu'il soit mis en liberté d'office. Donc, étant donné qu'en droit, les lois pénales plus douces sont d'application immédiate, le prévenu doit en principe bénéficier de cette loi favorable pour sa mise en liberté d'office.
Il dénonce par ailleurs les conditions de sa détention et qualifie le refus de sa mise en liberté provisoire pour des raisons de santé de terrorisme judiciaire institutionnalisé qui est au-dessus issue de toute logique judiciaire normale. Manga Jean Bosco déclare par ailleurs que Babouri est un otage de la démocratie et donc un prisonnier d'opinion.
Il a des problèmes de vision, il a des problèmes de mobilité en raison de ses pieds qui étaient enchaînés pendant un temps et nous estimons qu'il n'est pas humain. Et c'est justement un prisonnier d'opinion parce que actuellement il n'est pas un prisonnier de droit commun.
Pour Maître Olivier Guara, c'est parce que son client fait partie de la famille présidentielle qu'on veut le faire taire. Et sans se rendre compte, sa détention pendant plus d'un an sans condamnation tombe dans la situation de non-droit.
Dans un état de droit, ce genre de situation ne s'explique tout simplement pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne soit inculpée chez un juge d'instruction qui se trouve en N'Djamena et qu'il soit déporté dans une prison de haute sécurité qui est réservée à des gens qui sont condamnés. Et là où le bas blesse, cette déportation a été faite à l'insu même du juge d'instruction. On a simplement voulu le museler du fait de sa situation familiale. Il est assez proche du régime, donc on veut justement qu'il serve d'exemple. Et je pense que c'est une très mauvaise méthode.
Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Djemé Arabi, dit ne pas être informé de l'arrestation et de la détention de Mayadine Mohamed Babouri, alors qu'il fut secrétaire général à la présidence.
Moi, personnellement, je ne connais pas ce cas. Je ne sais pas s'il est au niveau de la justice, mais je vais essayer de me renseigner pour savoir de quoi il s'agit.
Cependant, une requête a été déposée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de N'Djamena par ses avocats pour demander sa mise en liberté d'office pour détention abusive conformément au nouveau code de procédure pénale. André Kodumadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Des observateurs des Nations Unies ont été menacés et molestés par les forces de sécurité dimanche à Kinshasa lors des marches interdites contre le président Joseph Kabila et de leur dispersion violente, a indiqué une porte-parole de la MONUSCO. La mission de l'ONU a par ailleurs estimé que l'usage de la force avait été disproportionné. On a noté que les forces de défense et de sécurité n'avaient pas appliqué les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité conformément aux normes internationales, selon la porte-parole. La MONUSCO avance un bilan provisoire de 6 morts à Kinshasa dans la répression de ces marches avec des allégations d'autres victimes. Vous suivez la Voix de l'Amérique. Le vice-président américain Mike Pence poursuit aujourd'hui et demain en Israël sa tournée au Moyen-Orient après l'Égypte et la Jordanie. Au programme, des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin. Outre son discours au Parlement israélien, il doit également se rendre au mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem et au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem. Le parquet général espagnol a demandé aujourd'hui la réactivation du mandat d'arrêt européen contre l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, qui est arrivé au Danemark, son premier déplacement hors de Belgique depuis qu'il y a trouvé refuge en octobre. Par ailleurs, la désignation du candidat choisi pour diriger l'exécutif catalan est attendue aujourd'hui à la mi-journée. Le nouveau président du Parlement catalan, Roger Torrent, doit en faire l'annonce et on s'attend à ce qu'il désigne Carles Puigdemont. Au moins 22 corps ont été retirés du grand hôtel de Kaboul, attaqué ce week-end par des talibans, dont certains calcinés sont difficiles à identifier selon un nouveau bilan du ministère de la Santé ce lundi. Le précédent bilan officiel du ministère de l'Intérieur faisait état de 18 morts, dont 14 étrangers et 10 blessés, dont 6 militaires. Retour sur les circonstances de l'attaque avec Eric Manirakiza.
L'attaque a duré une douzaine d'heures. D'après un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, le commando était composé de 6 hommes. Ils ont tiré à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des clients en otage, parfois immédiatement abattus. Les djihadistes avaient en outre déclenché un incendie au 4e étage qui a duré une bonne partie de la nuit. L'attaque a été maîtrisée vers 6h temps universel et 126 personnes ont été secourues. Les unités afghanes ont bénéficié du soutien de la coalition occidentale sous mandat de l'OTAN pour abattre les assaillants. La Norvège a notamment contribué au dénouement. Un comptable de l'hôtel qui s'est échappé grâce à sa connaissance des lieux a mis en cause la sécurité de l'hôtel. Il a affirmé que les gardes se sont sauvés sans combattre ou riposter. Les grands hôtels fréquentés par des touristes ou des occidentaux sont des cibles privilégiées des attentats. Pourtant, des mises en garde précises avaient été lancées depuis 48 heures concernant le risque d'attaque contre des lieux fréquentés par les étrangers. La dernière attaque avait visé en mars 2014 l'autre 5 étoiles de Kaboul, le Serena. 9 personnes avaient été tuées.
Et puis le retour des réfugiés Rohingyas en Birmanie ne commenceront pas mardi, date limite que s'était fixée Dhaka et Naypyidaw pour débuter ces rapatriements. Selon un responsable bangladais, nous n'avons pas fait les préparatifs nécessaires pour envoyer les gens à partir de demain. Il faut encore beaucoup de préparation, a déclaré à l'AFP Abdul Kalam Azad, le responsable du département d'aide aux réfugiés et de rapatriement du Bangladesh. Ces rapatriements devaient à l'origine commencer le 23 janvier ou plus tard. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.